Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons entendre deux textes. Un premier texte sera dans l'épître aux Colossiens et le deuxième sera l'épître à Philémon. Nous allons aujourd'hui commencer une petite série de prédications sur Philémon. Mais Colossiens va nous aider à mettre le contexte. Donc nous entendons maintenant les deux lectures.
Alors, pour commencer, ouvrons nos Bibles dans l'épître aux Colossiens au chapitre 4. À partir du verset 7 jusqu'à 18. Colossiens, chapitre 4, à partir du verset 7. En ce qui me concerne, Tychique, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, mon compagnon dans le service du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec le fidèle et bien-aimé frère Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Parmi les circoncis, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un réconfort. Epaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfois et parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin, bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée ainsi que Nympha et l'église qui est dans sa maison. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous, vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archip, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes. Que la grâce soit avec vous. Et ensuite, on va lire une deuxième lecture dans l'épître au Philémon. Donc c'est un peu plus loin dans la suite des épîtres de Paul. Donc après Thessaloniciens, Timothée et Tite. Donc juste avant l'épître aux Hébreux. Et on va lire donc tout le chapitre. Donc Philémon au verset 1. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans la maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui, pour nous, est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour tel que je suis, moi, Paul, un vieillard et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus, je te prie mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te le rembourserai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Jusqu'ici.
Merci Joël. Alors comme j'étais dans un avion il n'y a pas longtemps, et que je suis toujours très impressionné que des tonnes d'acier puissent voler, je me disais, mais comment est-ce qu'il peut voler ? Eh bien, sans air, un avion ne peut pas voler. Il a besoin de l'air, il s'appuie sur l'air en fait. Bon, je ne peux pas vous faire toute la physique actuellement, mais il s'appuie sur l'air. Et sans air, ben l'avion ne peut pas voler. Reste sur place. Ben sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. On ne peut pas, quelque part, nous promener dans cette parole pour être saisis et pour vivre ce que Dieu veut. On a besoin d'air, si vous voulez. On a besoin du Saint-Esprit qui agisse dans nos cœurs. Et ce matin, j'aimerais, comme annoncé, donc commencer une petite série sur Philémon, une petite lettre inclue dans le Nouveau Testament de 25 versets dans nos versions, 453 mots dans la version Colombe, mais je crois que c'est 335 mots en grec. C'est assez court, en fait. Un écrit qui est dans le canon biblique et dont le Saint-Esprit est l'auteur ultime et qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne, hein, selon 2 Timothée 3. La lettre à Philémon permet à l'église de Colosse de comprendre Colossiens 4, 9, quand Paul parle à Tychique et dit, si vous, on a lu tout à l'heure ce texte, hein, où il dit « Je l'envoie, donc Tychique, avec le fidèle et bien-aimé Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. » Ça vous fait quoi quand je dis ça, là ? Ça vous fait sûrement rien du tout, en fait. Parce que vous n'êtes pas de l'église de Colosse. Et vous n'avez pas vécu dans cette église. Donc vous n'avez pas les souvenirs des personnes, de ce qui s'y est passé, etc. Mais pour l'église de Colosse, le nom d'Onésime n'est pas lié à la fidélité, ni à l'amour fraternel. Et il n'est sûrement même pas considéré comme un compatriote. Si je vous dis que Onésime est un déserteur, c'est un déserteur qui a laissé son travail en s'enfuyant avec des biens appartenant à la personne qui accueille l'église dans sa grande maison, et que lorsqu'il était encore là, il était inutile. Peut-être même qu'il se moquait de la foi chrétienne. Peut-être même qu'il avait sali le nom de la famille de Philémon et même de celle de l'église de Colosse. Hein, donc si je vous dis qu'Onésime est un déserteur, donc ça c'est le petit mot qu'il faut écrire si jamais les enfants, qui a laissé son travail en s'enfuyant avec des biens appartenant à la personne qui accueille l'église dans sa grande maison, et que lorsqu'il était là, il était inutile. Ça aussi, c'est un petit mot qu'il faut noter. Il était inutile. C'est un jeu de mots avec son nom. On verra un peu plus tard. Alors maintenant, vous comprenez mieux si je vous relis Colossiens 4, 9. Vous avez Onésime, là ? Vous avez compris un peu sa situation ? Je relis. « Je l'envoie avec le fidèle et bien-aimé Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. » On commence un petit peu à mieux comprendre l'Église à Colosse qui a besoin d'explications. Et particulièrement Philémon, qui était l'employeur lésé d'Onésime. Calvin, quand il décrit cette épître, dit ceci dans son commentaire. Je vous le cite, je trouve intéressant. Paul renvoie un esclave fugitif et larron et prie son maître de lui pardonner. Mais en traitant cette matière, il parle si bien de la douceur, modération et humanité que doivent garder les chrétiens, qu'on dirait qu'il évoque une affaire concernant toute l'Église et non pas un homme en particulier. En priant pour un homme de si peu de qualité et méprisé de tous, il parle si humblement et modestement et se fait si petit qu'il est difficile de trouver un autre passage où on puisse percevoir mieux la douceur de son esprit. Fin de citation. Or, cette petite lettre à Philémon, certains l'appellent une carte postale. Bon, il y a quand même quand même 300 mots sur une carte postale, disons. Mais cette petite lettre contient de nombreux sujets que nous allons pouvoir aborder ensemble, mais il ressort que ce qui ressort le plus, c'est l'appel au pardon et à la réconciliation que Paul fait en tant que médiateur. L'appel au pardon et à la réconciliation que Paul fait en tant que médiateur. Voilà l'épître, en fait, ou la lettre à Philémon. On ne va pas étudier toute la lettre ce matin, je vais surtout m'arrêter sur le contexte et le médiateur. Et nous avons comme un sandwich, si vous voulez, ici, dans cette lettre, avec les versets 1 à 3 et les versets 23 et 25, à 25. Les deux bouts de la lettre font comme, en fait, deux parties qui tiennent en sandwich tout le reste de la lettre. Ces deux parties entourent le message et dans la lettre, donc le jambon au milieu ou les différents éléments qui sont au milieu, hein, ce sera donc Paul qui d'abord souligne l'appréciation qu'il a pour Philémon, les versets 4 à 7, et ensuite il arrive avec ses demandes. Ça, c'est ce qui est au milieu. Et ce qui entoure quelque part, hein, ce qui est au milieu, c'est la grâce et la paix souhaitées par le médiateur captif pour Christ. Ça, c'est les choses qui sont au début et à la fin. Donc ce matin, on va simplement suivre le texte et la première partie du verset 1 nous occupera au premier point. Il nous parlera de Paul, le médiateur prisonnier. Ça sera la première partie. Ensuite, la deuxième partie du verset 1 et le verset 2 nous permettra de rencontrer les destinataires lésés. Ils étaient lésés par Onésime. Ensuite, on va de l'autre côté du sandwich, verset 23, nous donnera l'occasion de rencontrer des témoins. Et ensuite, les versets 3 et 25, qui font vraiment ces deux parties, nous permettront de nous délecter de ce que Paul souhaite, la bénédiction. Voilà un petit peu le cheminement qu'on va faire ce matin. Donc, on va commencer par le début, hein, le verset 1. Regardez avec moi, si vous avez votre Bible, Philémon, de l'avoir ouvert, c'est une très bonne idée. Et on regarde le premier verset. Regardez ce qui est écrit. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus et le frère Timothée. Jusque-là déjà. Parce qu'on a déjà beaucoup de choses à apprendre, juste par ces éléments ici. Ce n'est pas habituel que Paul se présente de cette manière-là. En fait, si vous lisez toutes les autres épîtres, il n'y a que 4 fois avec celle-ci qui ne se présente pas comme apôtre. Donc Paul ne se présente pas comme apôtre, il ne défend pas son apostolat devant Philémon, Philémon semble avoir une haute estime de l'apôtre Paul. Le fait que Paul indique qu'il est prisonnier pour le Christ Jésus souligne les sacrifices de Paul pour Jésus-Christ et sa situation dans laquelle il est. Et dès le début, en fait, il prépare son argumentation comme médiateur pour Onésime en disant « Je suis dépouillé de mes droits, je suis prisonnier ». Il incitera Philémon à renoncer à ses droits face à Onésime. Vous voyez ? Donc il commence dès le début à préparer le terrain à ce qu'il va demander. Ainsi, Paul se met au niveau d'Onésime aussi, faible, impuissant. Par ailleurs, le titre de prisonnier de Jésus-Christ annonce un autre thème clé dans la lettre, la modification des relations à la lumière de l'Évangile. Donc en tant que médiateur, Paul veut poser des bases. Et la façon de se présenter lui permet déjà de poser des fondements. Voici donc 3 éléments qui ressortent de ce que je viens de vous dire, de ce qu'on voit ici. Le premier, c'est que Paul compte sur la confiance de Philémon concernant son autorité. Il n'a pas besoin de dire qu'il est apôtre. Il compte sur la confiance de Philémon concernant son autorité. Il y a une relation de confiance. Deuxièmement, Paul se met au niveau d'Onésime. Il dit « je suis prisonnier, je suis quelqu'un quelque part qui n'est pas de droit », comme Onésime, l'esclave. Paul se met au niveau d'Onésime pour aider Onésime à avoir confiance et pour aider Philémon à comprendre la demande qu'il fera par la suite. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, Paul, en parlant de sa situation d'un point de vue spirituel, aide Onésime et Philémon à comprendre que nous sommes tous égaux en Christ. En fait, on est tous, on pourrait dire, prisonniers de Christ. On est tous esclaves de Christ. Ou on est tous dans la gloire de Christ. Enfin, voilà, on peut prendre tous ces éléments-là. On est égaux en Christ. Et un dernier élément concernant cette indication du prisonnier de Christ pouvait aider aussi les lecteurs à faire le lien avec l'affirmation des apôtres qui, après avoir été battus, et c'était connu ce qu'ils avaient dit. Vous vous souvenez, dans le livre des Actes, quand ils ont été battus à cause de Christ, ils ont dit « Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. » Et on pourrait dire qu'être prisonnier à cause de Christ est un honneur. C'est être jugé digne de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Ça fait un peu drôle, hein, on n'a pas tout à fait cette notion actuellement, mais c'est vrai que d'être jugé digne, d'être mis en prison à cause de Christ, pas à cause d'une erreur de notre part ou par une provocation, mais à cause de Christ, eh bien, c'est être jugé digne de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et cela conférait aussi quelque part une certaine autorité ou en tout cas une référence, une confiance pour ceux qui voyaient cela. Donc ça, c'est une première partie avec cette notion Paul prisonnier pour le Christ. Puis ensuite, il dit « et le frère Timothée ». Ça, c'est un deuxième élément dans cette première partie qui me paraît aussi important de souligner. Le médiateur prisonnier ici n'agit pas seul. Il n'est pas en train d'essayer de régler la chose dans le secret, dans un coin avec Philémon. Non, Timothée est présent. Si Timothée est mentionné, il a aussi eu son mot à dire et il est d'accord avec ce que Paul a écrit. Ce n'est pas que forcément que Paul l'a écrit avec Timothée, qu'il est co-auteur, mais comme il est mentionné, eh bien, il est d'accord. Sinon, ce serait une usurpation d'identité ou de l'inconscience. Donc, ni Paul ni Timothée ne jouent à l'usurpation d'identité ou à l'inconscience. On peut plutôt apprendre ici de Paul qui est assez humble pour ne pas travailler seul et soumettre ses projets à d'autres qui sont d'accord et qui signent avec lui. C'est important, cette notion. Quel bel exemple de ne pas vouloir jouer au sauveteur tout seul. Quel bel exemple de ne pas vouloir jouer au sauveteur tout seul et vouloir régler des situations délicates sans demande de conseil ou de relecture. Donc ça, c'est vraiment un bel exemple ici. Hein. Quel bel exemple de ne pas vouloir jouer au sauveteur tout seul et vouloir régler des situations délicates sans demande de conseil ou de relecture. Alors là, je vais déjà faire un lien qu'on commence à faire petit à petit. Hein. C'est si Jésus-Christ peut être un médiateur sans besoin de conseil, c'est parce qu'il est Dieu. Il est parfait. Alors Paul, c'est vrai, nous fait penser à Christ dans cette lettre. Hein. Et va même jusqu'à dire qu'il va payer pour Onésime. Enfin, il y a beaucoup de liens qu'on peut faire. Mais Paul n'est pas Jésus-Christ. Et il a besoin d'être accompagné, de ne pas jouer au sauveteur. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Et nous, on pourrait dire, nous sommes encore moins des sauveteurs que Paul, d'où l'importance d'être ensemble dans ce que nous vivons. N'hésitons donc pas à nous entourer de personnes de confiance, ancrées dans la foi, fidèles, cherchant à vivre et transmettre la grâce et la paix, comme c'était le cas de Timothée aux côtés de Paul. Bon, maintenant on sait qui envoie ce courrier. Alors, qui c'est qui envoie ce courrier? Vous vous rappelez, les enfants, qu'est-ce qui est écrit là? C'est qui envoie le courrier? Paul, prisonnier de Jésus-Christ, avec Timothée. Voilà, c'est eux qui envoient le courrier. Et puis, il l'envoie, en fait, à qui? Eh ben, c'est le point qu'on va voir maintenant. On va regarder les versets suivants. À qui envoie-t-il cela? Eh bien, on l'envoie aux destinataires lésés, c'est-à-dire ceux à qui Onésime avait fait du mal. À qui il va parler. Pourquoi Paul leur envoie-t-il cette lettre ? C'est parce qu'il veut la réconciliation. Il faut donc que les personnes auprès de qui Onésime devra se repentir soient averties. Alors regardez avec moi la deuxième partie du verset 1, ce qui est écrit. À qui il écrit ? À Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre. À Appia, notre sœur. À Archippe, notre compagnon de combat. Et à l'église qui est dans ta maison. Voilà, donc poussé par le Saint-Esprit, qui est l'auteur ultime de la Bible et aussi de Philémon, Paul destine sa lettre non pas seulement à Philémon, mais à quatre destinataires. À quatre destinataires. Vous arrivez à les voir ici, les quatre destinataires ? On va commencer pas par Philémon, on va commencer par les autres. On arrivera à Philémon après. Donc il la destine, voyez à qui, là, à qui Philémon, puis après verset 2 ? Appia, exactement. Appia, qui est vraisemblablement l'épouse de Philémon. Alors, on n'a pas d'éléments de preuve, mais c'est vraisemblablement l'épouse de Philémon. Elle est donc aussi directement concernée par l'affaire d'Onésime. Ça fait partie de la famille. Et Paul ne veut pas que Philémon cultive le secret face à son épouse. Ça, c'est un élément assez fort ici. Et même si ce n'était pas son épouse, il ne veut pas qu'il cultive le secret. Appia est vraisemblablement l'épouse de Philémon, est donc aussi directement concernée par l'affaire d'Onésime, et Paul ne veut pas que Philémon cultive le secret face à son épouse. Et ça me permet ici de souligner un principe important dans le cadre du couple. Je ne peux que encourager à n'avoir aucun secret qui concerne sa propre personne envers son conjoint. Je ne parle pas de ce que les autres peuvent vous confier. Ça, c'est la vie des autres. Et parfois, il est bon, et même souvent, il est peut-être utile de ne pas en parler à son conjoint. Mais ce qui nous concerne personnellement, rien ne devrait être en secret. Le secret est le lieu où Satan travaille le plus et le mieux. Il a gardé des personnes inactives, bloquées, parfois pendant des années ou même toute une vie, à cause d'un secret caché par lequel il les tenait dans la honte, dans la culpabilité, dans le sentiment d'inutilité ou d'illégitimité. Quel malheur ! Quel malheur ! Donc ne gardez aucun secret vous concernant. Et si vous êtes célibataire, vous dites « je suis célibataire ». Eh bien, si vous êtes célibataire, entourez-vous de plusieurs personnes de confiance pour vous ouvrir à eux. Peut-être pas tous les sujets à la même personne pour ne pas être dans un attachement malsain, mais qu'il n'y ait aucun secret personnel caché que personne ne sait. Ne donnez pas accès au diable qui l'utilisera sinon, certainement. Entre parenthèses, si vous vivez des luttes avec le péché, ne luttez pas seul. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul à lutter contre ce péché. Si Satan vous fait croire que vous êtes le seul ou la seule à lutter contre ce péché, c'est un mensonge. C'est faux. Et j'aimerais encore vous dire aussi que lutter signifie être en vie. Celui qui ne lutte pas ou plus, c'est qu'il est mort. Je referme ici la parenthèse. Donc Paul veut que Appia soit au courant. Elle est une sœur en Christ, hein, c'est ce qui est écrit, Appia, notre sœur. Et elle fait partie de la même famille spirituelle que Onésime maintenant. Ce n'était pas le cas avant, mais maintenant c'est le cas. Qui a rejoint la famille de Dieu lorsqu'il a rencontré Paul et qu'il est venu à Christ. Or, on a vu Appia. Ensuite, de qui parle-t-il ? Regardez au verset 2. Appia, puis ensuite il parle. C'est des noms bizarres. Hein. Il n'y a personne qui a ces noms ici, Appia. Et Archippe. Bon. Il parle d'Archippe. Alors, certains disent que c'est le fils à Philémon et Appia. D'autres disent que c'est un responsable d'église. En tout cas, il est aussi concerné par le retour d'Onésime, qu'il a côtoyé par le passé. Et s'il est de la famille, ben il était peut-être même, Onésime était peut-être même sous ses ordres. Donc ici, pas de secret de famille pour les personnes concernées par les relations avec des personnes en lien avec la famille. La réconciliation et le pardon, qui sont les thèmes principaux de la lettre, passent par là. Archippe devait être au courant de ce qui s'y passait. De la raison du départ d'Onésime, de la raison du retour d'Onésime, de la responsabilité de Philémon dans cette affaire et peut-être sa propre responsabilité de pardonner. Paul veut que Archippe soit au courant. C'est un compagnon de combat, c'est écrit là. Archippe, notre compagnon de combat. c'est un compagnon de combat. Et rappelez-vous, le combat est contre... Non, pas contre Onésime. Non, pas contre les esclaves fugitifs. Il est contre le péché. Le combat est contre le péché avec toutes les forces et capacités que Dieu nous donne et avec les armes de grâce. Donc Paul veut que Archippe soit au courant, parce que c'est un compagnon de combat. Et rappelons-nous que le combat est contre le péché avec toutes les forces, les capacités que Dieu nous donne avec les armes de grâce. Donc il a parlé d'Appia, d'Archippe, et à qui encore d'autres il écrit ? Vous arrivez à voir dans le texte là, verset 2 ? Et à l'église qui est dans ta maison. Bon, est-ce que c'était toute l'église de Colosse ? Est-ce que c'était une partie de l'église de Colosse ? Est-ce que c'était... Ça, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, il y avait un lien, ça c'est sûr, il s'était connu. Mais Paul parle de l'église qui est dans la maison de Philémon. Onésime était sûrement déjà connu des membres d'église qui se réunissaient dans la maison de Philémon, avant qu'il parte. Et en fait, quand il revient, il devra aussi être accueilli, en fait. Et même accueilli comme membre, puisque maintenant, c'est un enfant de Dieu. Il est un frère dans la foi. Il aura besoin, en fait, d'être rétabli devant l'église. Ou reconnu, en tout cas. Donc, Paul veut que les membres de l'église locale soient au courant. Il ne veut pas de secret entre frères et sœurs dans la foi concernant les interactions de la famille spirituelle. Donc là, on a vu déjà trois. Donc, il y a Appia, Archippe et l'église dans la maison. Puis évidemment, on reprend celui qui était au début. Il écrit à Philémon. Et de Philémon, il dit deux choses importantes. Vous avez vu ce qui est écrit là à la fin du verset 1 ? Donc, Philémon, notre bien-aimé, compagnon de service. Donc, c'est un bien-aimé et c'est un compagnon de service. Donc, la première notion, bien-aimé, indique une relation fraternelle, amicale, voire même une affection que Paul avait avec lui, ou lui avec Paul. C'est vrai que quand on regarde les voyages de Paul, on voit qu'il n'est pas allé à Colosse. En tout cas, ça ne nous est pas dit. Mais Colosse, c'est à 4 heures de marche de Laodicée, où Paul a passé, et moins d'une semaine de voyage d'Éphèse, où Paul est resté quelques années. Et il semblerait que c'est dans cette dernière ville, donc à Éphèse, que Paul a fait connaissance avec Philémon et lui a annoncé l'évangile, et même que Philémon serait venu à Christ par le ministère de l'apôtre Paul. Et lorsque quelqu'un reçoit l'évangile d'une autre personne, généralement, un lien affectif est créé et nourri par la reconnaissance d'avoir été conduit vers Christ par cette personne. Ce lien devait être assez fort entre Philémon et Paul, on le verra par la suite dans ce qu'il lui dit, hein. Et cela donc manifeste cette notion du bien-aimé. Philémon, notre bien-aimé. La deuxième description indique un compagnon d'œuvre. Alors, c'est qu'un seul mot dans le texte original. Et ce mot est souvent utilisé par Paul pour désigner ceux qui ont travaillé à ses côtés pour la cause de Christ. Donc on voit Prisca et Aquilas, Tite, Épaphrodite, et d'autres dont Paul parle, qui ont travaillé avec lui. Et travailler ensemble, dans ce cas, c'est annoncer le même évangile. C'est annoncer la réconciliation avec Dieu et les uns avec les autres. C'est ça l'évangile, en fait. Et Philémon l'a fait avec Paul, à ses côtés. Donc, vous commencez à voir la chose. Paul prépare le terrain de ce qu'il va demander à Philémon. Quelque part, il lui dit, ensemble, on annonçait la réconciliation aux autres. Et là, il va demander à Philémon de lui-même vivre la réconciliation avec Onésime dans cette situation difficile. Donc Paul souligne cette relation proche avec Philémon, pour préparer ce qu'il va demander. Il affirme la relation amicale et proche dans la valeur et dans la mission. Ils ont la même mission. Et ils veulent la vivre. Donc Paul souligne cette relation proche avec Philémon pour préparer ce qu'il va demander. Il affirme la relation amicale et proche dans la valeur et la mission qu'ils ont en commun. Or, si vous avez un vague souvenir encore des enseignements de l'artisan de paix, c'est vraiment tout de l'artisan de paix, Philémon. Vous verrez, je vais quand même faire des liens de temps en temps. Mais ici, c'est le A du principe pause de l'artisan de paix, qui est affirmer les relations. Paul est en train d'affirmer la relation avec Philémon. Nous avons une bonne relation, je veux la garder, et en tant que médiateur, je viens dans une bonne relation. Donc ça, c'est un élément fort ici. Donc nous reconnaissons maintenant les destinataires. Alors les destinataires, on a vu qui est le principal destinataire de la lettre. Vous vous rappelez qui c'est? Les enfants, ça vous dit quelque chose? À qui Paul écrit cette lettre? Elle s'appelle comment la lettre? Philémon. Ouais, c'est ça, c'est Philémon, exactement. Hein, Philémon. Et Paul n'a pas seulement parlé à Philémon, mais il a parlé à Appia, Archip et à l'église qui est dans la maison. OK? Et à la fin de la lettre, Paul donne des noms de personnes qui saluent en fait les personnes. Hein? Et le désir de manifester leur affection en transmettant leur salutation est sûrement bien présent. Mais il y a plus à mon avis. Paul offre ici des témoins du changement de vie d'Onésime à qui les gens peuvent s'adresser aux besoins. Donc entrons dans notre troisième point qui s'intitule « Les témoins ». Alors là, on doit aller à la fin du livre de Philémon, hein, parce que je fais un peu le sandwich aujourd'hui, début et fin. Donc on arrive au verset 23. Verset 23, on a plusieurs noms qui sont donnés ici. Donc je vous lis, hein, vous êtes l'église de Colosse, je vous lis ce texte. « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc et mes compagnons d'œuvre. » Ça vous fait quoi d'entendre tous ces noms? Pas grand-chose. Enfin, il y a certains noms qu'on connaît peut-être un petit peu. Vous les avez rencontrés? Vous avez vécu avec eux? Un peu en lisant la Bible, mais pas en vrai. Et à nouveau, hein, comme on n'a pas vécu l'histoire, c'est un peu difficile. Si je vous écrivais, je disais « Olivier Favre vous salue, ainsi que Émile, Stuart, Bob, John, ils vous saluent. » Vous auriez des souvenirs. La joie du début de l'Église. Des personnes qui sont venues plus ou moins de fois. Eh bien, pour les Colossiens, c'est la même chose lorsqu'ils entendent ces noms. Épaphras, d'après Colossiens 1,7, est considéré comme le fondateur de l'église de Colosse. Donc, quand on parle d'Épaphras, il y a comme une vague de reconnaissance qui est présente. Hein? Il a certainement aussi connu Onésime avant qu'il parte de la maison. Et il est maintenant à Rome avec Paul. Et il a vu la transformation d'Onésime. En fait, Épaphras est un témoin de choix de la conversion d'Onésime. Ensuite, on a Marc. Oh, c'est qui ce Marc? Ben, c'est en fait Colossiens qui nous aide à comprendre qui est ce Marc. Hein, puisque Colossiens, c'est l'église où est Philémon. Et puis là, il est parlé du cousin de Barnabas. Ah ah! Oh, mais ça nous rappelle quelque chose. En fait, Marc était le sujet d'un grave conflit de Paul et Barnabas. Vous vous souvenez peut-être dans Acte 15 où il est dit « Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean surnommé Marc, mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et parti recommandé par les frères à la grâce de Dieu. » Il y a eu un conflit là. Et Philémon d'ailleurs doit gérer un conflit avec Onésime qui rentre. Donc citer Marc, ben c'est pas un hasard. C'est intéressant parce que dans Colossiens, qui est une lettre écrite et que Philémon a pu entendre, il est dit dans Colossiens 4:10, on l'a entendu tout à l'heure, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Au sujet duquel vous avez reçu des instructions, s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. En fait, ça voulait dire que le conflit est résolu entre Marc et Paul. Il est résolu. Et cela était aussi un encouragement à Philémon de dire, les conflits se résolvent par la grâce de Dieu. Ensuite, on va... Aristarque, c'est tous des noms, si vous cherchez des noms pour vos enfants, il y a tout ce qu'il faut ici. Hein. Aristarque, qui est un Macédonien de Thessalonique, qui a accompagné Paul. Il était à Laodicée avec lui, à Éphèse avec lui. Donc il a sûrement rencontré Philippe, Philémon et les gens de Colosse. Il y a aussi Démas. Alors, Démas, c'est un peu particulier. Parce que Démas, il a plusieurs étapes dans sa vie. Mais ici, à ce moment-là, lorsqu'il est avec Paul, il est fidèle. Il n'a pas encore abandonné Paul. C'est vrai que dans 2 Timothée, on verra ce Démas où Paul dira qu'il l'a abandonné. Mais ici, dans le cadre où Philémon reçoit la lettre, Démas est encore fidèle. Et le dernier personnage, c'est Luc. Vous connaissez Luc ? C'est qui, Luc ? Luc, c'est le médecin. C'est écrit hein, dans c'est dans Colossiens d'ailleurs, oui, c'est dans Colossiens. Donc Luc est le médecin et il accompagne en fait Paul dans ses voyages. Hein, depuis qu'il est parti en Macédoine, il l'accompagne. Dans Actes 16, si jamais pour savoir à partir de quand il vient, vous pouvez lire tout le livre des Actes, mais je vous aide un peu, dans Actes 16, à un moment donné, ça part en nous. Avant, il dit toujours « il », puis d'un coup, c'est « nous ». Puis en fait, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes. C'est Luc qui a écrit aussi l'Évangile selon Luc. Donc un homme cultivé, un homme qui connaît les humains en tant que médecin aussi, un homme qui aime l'histoire, qui aime connaître les changements qui se passent dans une vie, etc. Donc un témoin de choix aussi pour parler de la transformation de la vie d'Onésime. Donc si Paul rappelle des personnes aimées et connues de Philémon et de l'église de Colosse, hein, Paul rappelle des personnes aimées et connues de Philémon et de l'église de Colosse, il donne aussi la possibilité à parler à d'autres personnes pour demander des renseignements sur Onésime. Donc Paul ne veut pas être celui qui « il n'y a qu'à me faire confiance, c'est tout ». Non, et ce n'est pas comme ça qu'on résout les conflits d'ailleurs. Je vous dis quelque chose, je vous donne des témoins, vous pouvez leur demander. Voilà ce qui est arrivé. Paul donne les moyens à Philémon de vérifier, de s'adresser à d'autres témoins en plus de Tychique, qui a amené la lettre pour l'église de Colosse avec Onésime. Hein. Donc Onésime n'est pas rentré tout seul, ça aurait été dangereux d'ailleurs. Hein. Un esclave en fuite, ce n'est pas une bonne idée de rentrer tout seul. Donc là, c'est Tychique qui a amené les lettres à l'épître de Colossiens, et puis Philémon, je pense, et qui a accompagné, donc Onésime a accompagné cet homme. Et lui pouvait aussi témoigner du changement de vie d'Onésime. Donc je vous ai parlé du sandwich, hein, du début et de la fin, qui entoure la demande de Paul, et ces deux parties se répondent d'ailleurs et contiennent la motivation et le moyen de vivre la réconciliation et le pardon. Il s'agit de la bénédiction, de la grâce et de la paix. C'est notre quatrième point, la bénédiction. Donc dans notre monde de rapidité et d'efficacité, je mets entre guillemets l'efficacité, hein, mais voilà, rapidité et d'efficacité, il faut aller droit au but. Donc les formules de salutation et les demandes de bénédiction se font plutôt rares. Pourtant, la Bible regorge de bénédictions, et particulièrement les épîtres inspirées par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Les bénédictions nous apprennent à nous attendre à ce que Dieu seul peut nous donner. Vous savez que la première parole adressée à l'homme par le Créateur est une bénédiction. C'est dans Genèse 1, 28. Il est dit « Dieu les bénit ». C'est la première chose qu'il fait. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre ». La bénédiction, première parole. L'Éternel a d'ailleurs commandé aux sacrificateurs de bénir le peuple. Une bénédiction qu'on aime à utiliser même à la fin de nos cultes, dans Nombre 6, 22 à 27. Savez-vous ce que Jésus a fait, la dernière chose que Jésus a fait quand il a quitté ses disciples ? Bon, c'est assez simple, hein, ça fait partie du point que je suis en train de développer, évidemment. Mais dans Luc 24, 51, il est dit « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel ». La bénédiction est quelque chose d'important. Et il serait dommageable de s'en priver. J'aimerais vous donner 6 conséquences de se priver du souhait de la bénédiction de Dieu à l'image de celle des bénédictions donc de la Bible. Donc la première conséquence, c'est que nous ne donnons pas gloire à Dieu. Parce qu'en fait, on n'en parle pas. Nous ne donnons pas gloire à Dieu en se privant de la bénédiction. Deuxièmement, nos attentes ne sont pas dirigées vers Dieu. Troisièmement, nous ne saisissons pas les promesses de Dieu et avons de fausses attentes. Parce que quand on prend une bénédiction venant de Dieu, bon, on dit ce qui vient vraiment de Dieu. Donc ça nous aide à savoir sur quoi on peut s'attendre. Quatrièmement, nous nous privons de paroles qui nous encouragent. Parce que les bénédictions sont des encouragements. Cinquièmement, nous ne vivons pas de transition qui nous envoie avec la bénédiction de Dieu dans notre vie courante. On vit un moment avec Dieu et puis... Puis après, ben, on retourne dans notre quotidien sans transition. La bénédiction permet cette transition. Et sixièmement, nous mettons de côté l'œuvre de réconciliation, la grâce et de paix accomplie par Christ. Voilà pourquoi vous aurez toujours une bénédiction en fin de culte, ici. Parce que nous nous rassemblons pour adorer Dieu et nous voulons saisir ce que Dieu veut nous donner par les bénédictions. La bénédiction, ce n'est pas simplement un acte habituel. On ne dit pas juste ça pour faire parce qu'il faut le faire. C'est habituel. Donc, allez, une petite bénédiction et c'est bon. Mais non ! C'est une manière, un, de donner gloire à Dieu. Vous aurez compris, hein, je reprends les six éléments, mais maintenant on les voit positivement. Hein. Donc là, vous pouvez noter maintenant. Hein, de donner gloire à Dieu. Deuxièmement, de diriger nos attentes vers Dieu. Avec la bénédiction, cela dirige nos attentes vers Dieu. Troisièmement, de saisir les promesses de Dieu et avoir des attentes conformes à sa volonté. Voilà pourquoi souvent on lit un texte, même biblique, de bénédiction. Comme ça, c'est selon sa volonté. On peut s'attendre à ce qui est écrit. Quatrièmement, de nous remplir de paroles qui nous encouragent. On a besoin d'encouragement. Je pourrais vous demander, qui n'a pas besoin d'encouragement ici ? Alors, ceux qui lèvent la main, bon, ça peut peut-être arriver de temps en temps qu'on est dans des périodes très fastes, mais on a besoin d'encouragement. Et la bénédiction nous permet aussi de la recevoir. Cinquièmement, de vivre la transition de ce que nous avons entendu et vécu dans le culte d'adoration pour aller dans notre vie courante. Voilà, on a reçu quelque chose. Alors, parfois, la bénédiction peut aussi, non pas seulement être un texte biblique, mais en lien avec ce qu'on a entendu. Voilà une bénédiction, comment Dieu nous envoie ensuite dans notre vie quotidienne. Donc la transition. Et sixièmement, nous nous rappelons avec reconnaissance l'œuvre de réconciliation, de grâce et de paix accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous rappelons avec reconnaissance. Alors dans Philémon, alors maintenant il faut aller voir dans le verset 3 et le verset 25, hein, c'est les deux versets qui nous intéressent. Nous voyons verset 3 qu'il souhaite deux choses. Lesquelles ? Verset 3. Qu'est-ce qu'il souhaite ? Vous arrivez à me dire, là ? Grace and peace, c'est ça, la grâce et la paix. Hein, sont deux ingrédients principaux de la bénédiction souhaitée. Parfois, au verset 25, on le voit, c'est réduit à la grâce uniquement. Hein, et la grâce, on pourrait dire, elle inclut la paix, parce que la paix est le fruit de la grâce. Nous voyons ici, en fait, le fondement de la réconciliation. Pour vivre la réconciliation, nous avons besoin de grâce qui amène à la paix. Mais le verset 3 et le verset 25 soulignent autre chose encore. Ils soulignent la source d'où cela vient. Regardez au verset 3. « Que la grâce et la paix vous soient données, c'est tout. » Mais non. De moi ? Non. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ou verset 25, de notre Seigneur Jésus-Christ. La source, c'est le Dieu trinitaire. Et la manifestation de la grâce et la paix a été particulièrement manifestée par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pris la malédiction qui pesait sur nous pour que nous puissions recevoir la bénédiction de sa grâce et de sa paix. Jésus-Christ est donc la source de notre pardon. C'est auprès de Dieu, le Père, que nous trouvons notre refuge et la source de tout bien. En conclusion, j'aimerais souligner que nous avons ici un bel exemple de réconciliateur. L'apôtre Paul, qui, on le verra tout au long de la lettre, mais ça a déjà commencé, d'un réconciliateur, d'un artisan de paix. Paul, guidé par l'Esprit, nous montre une manière d'aider à régler une situation difficile. Et je vous assure qu'un esclave fugitif qui rentrait chez lui, c'était une situation difficile. Autant pour Onésime que pour Philémon. Ce livre souligne aussi l'essentiel, la rédemption, l'évangile, qui est le poignet, la main de l'artisan de paix. La grâce et la paix qui vient de Dieu. C'est l'évangile qui a transformé Onésime. C'est l'évangile qui sera le moyen qui permettra une réconciliation avec son maître qui a été lésé. Pour les deux parties externes de son sandwich, Paul souligne que la grâce vient de notre Seigneur Jésus-Christ. En faisant cela, il lui rend gloire. Artisan de paix, la main de l'artisan de paix, le R1, c'est rendre gloire à Dieu. C'est dire que cela vient de lui. Paul place la grâce de Christ au début et à la fin de la lettre. Et cette rencontre pour que la grâce puisse se manifester. Alors si tu ne connais pas la réconciliation avec Dieu et avec les autres ce matin, eh bien demande à un membre de l'Église qu'il t'explique l'Évangile, parce que chaque membre ici a témoigné publiquement de sa foi et est capable de t'annoncer l'Évangile. N'hésite pas. Et si tu connais l'Évangile, mais qu'il y a un secret que personne ne connaît, un poids dans ta vie, une lutte, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Dieu t'a placé dans un corps avec des membres bienveillants qui luttent aussi et qui sont à tes côtés. Et si tu connais l'Évangile et qu'il ne te semble pas avoir de problème à régler actuellement, bah remercie le Seigneur, évidemment, et sois disponible. Prie pour les autres. Nourris-toi de la parole, des moments intimes avec Dieu, pour rester, on pourrait dire, en forme spirituellement et vivre la repentance et la foi afin de reconnaître tes torts lorsqu'il y en a et prêt à être pardonné lorsqu'il le faut. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes reconnaissants d'avoir cette petite lettre qui est courte, mais qui attend à nous apprendre. Te remercions pour Paul, qui ici fait office de médiateur, qui désire une réconciliation entre Philémon et Onésime, Onésime et Philémon, qui est prêt à utiliser les titres les plus bas, de dire qu'il est prisonnier, qu'il n'a pas de droit, pour aider Onésime à avoir confiance, lui qui n'a pas de droit, et pour aider Philémon à comprendre la situation que vit Onésime et Paul. J'aimerais, Seigneur, te dire merci pour cet amour qui est dans cette lettre, pour ce désir aussi que tous ceux qui sont concernés soient avertis, soient préparés et puissent vivre la grâce et la paix. Seigneur, nous te prions que cette lettre que nous allons pouvoir étudier puisse avoir un impact profond sur nos cœurs. Et que si nous avons des relations à régler, eh bien que nous puissions le faire dans la grâce et la paix, avec ta force, en ton temps, selon ta manière. Ou que nous puissions être aux côtés de ceux qui sont dans des difficultés. Mais Seigneur, premièrement, que chacun puisse trouver cette paix avec toi, par ce médiateur qu'est Jésus-Christ, qui a tout payé et qui nous donne cette grâce de pouvoir vivre dans cette paix. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous n'avons pas la capacité de changer le cœur des autres. Nous ne pouvons pas forcer des réconciliations. Mais avec toi, notre Dieu, il n'y a jamais de situation où tu ne veux pas. Et c'est tellement bon de pouvoir vivre cette communion avec toi, pour faire face aux situations que nous vivons, qui sont plus ou moins faciles. Donne-nous cette paix, Seigneur, que toi seul peux donner. Guide-nous, garde-nous, et que cette lettre à Philémon devienne une lettre qui nous est chère, qui nous encourage, qui nous guide, et qui nous fortifie dans la grâce et la paix. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.